Le 17, 19, 14, 13, 16 et 17. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'origine des noms de famille. Tout homme est enfermé dans le cercle d'un mot, son nom. Mallarmé. D'histoire. Le moins connu des hommes a un nom de famille. C'est même, disait le sociologue Dale Carnegie, le mot le plus important de son vocabulaire. C'est d'abord par leur nom qu'un homme ou une femme ont une identité et se rattachent à une famille, c'est-à-dire à une histoire. Dans un monde où l'on vit et où l'on meurt de moins en moins souvent sur son lieu de naissance, le nom est même le seul moyen de retrouver ses racines. Mais si nous sommes de plus en plus nombreux à chercher l'origine de nos patronymes, sait-on quand ils sont nés et pourquoi certains d'entre eux ont disparu au point qu'aujourd'hui, plus de 60 millions de Français ne se partagent qu'un million de noms de famille, pour le meilleur ou pour le pire. France Inter, Christophe Ondelat, le 8 avril 1999.
Il y a dans notre pays un million de patronymes et il paraît que c'est un record du monde. Le nom le plus répandu, c'est Martin. 228 857 naissances de Martin en un siècle. Il faut dire que nous en avons nous-mêmes trois à France Inter, Serge, Odile et Patricia Martin. Viennent ensuite les Bernard, les Thomas et loin derrière les Dupont. Quant à ceux qui ont demandé à changer de nom, ils s'appelaient Couillard, Briscu, La Crotte et Joli Con. Pas tous les jours qu'on peut prononcer des noms comme ça à la radio, alors on s'en donne à cœur joie.
Mais comment tu t'appelles, je sais pas ton nom. Comment tu t'appelles, je sais pas ton nom. Comment tu t'appelles, je sais pas ton nom. Comment tu t'appelles. Tu t'appelles pas Soleil,
je m'appelle.
Tu t'appelles pas l'eau,
je m'appelle.
Tu t'appelles pas le ciel,
je m'appelle.
Pas les animaux,
je m'appelle.
Tu t'appelles pas mes oreilles,
je m'appelle.
Tu t'appelles pas les mots,
je
tu t'appelles pas le vermeil,
je
tu t'appelles pas le beau. Mais comment tu t'appelles, hein, je sais pas ton nom. Comment tu t'appelles, hein, je sais pas ton nom. Comment tu t'appelles, hein, je sais pas ton nom. Comment tu t'appelles.
Alors le nom de mon invité d'aujourd'hui, beaucoup de gens le connaissent, c'est un généalogiste réputé qui vient de publier un livre, Laissez parler les noms, alors nom de lieu, nom de marque, prénom, mais aussi nom de famille dont nous allons parler avec lui. Jean-Louis Bocarnot, bonjour.
Bonjour.
Alors si nous avons, vous et moi et tous ceux qui nous écoutent un nom, c'est sûrement parce qu'il sert à quelque chose, et pourtant j'étais très surpris en vous lisant d'apprendre qu'il avait fallu attendre très longtemps pour qu'apparaissent les premiers noms de famille au Xe siècle à peu près. Qu'est-ce qu'on faisait avant le Xe siècle pour se nommer ou pour identifier quelqu'un?
Ben avant le Xe siècle, le nom de famille n'aurait servi à rien parce que on se contentait d'un nom de baptême, l'équivalent de nos prénoms. On ne pouvait pas parler de prénoms puisqu'il n'y avait pas de nom après. Hein. Mmh. Mais chacun était vivait sous un seul nom, un nom de personne qui était Bernard, qui était Pierre, qui était Jacques, qui était André, etc. Ou un diminutif d'un de ces noms-là. Mmh.
Généralement un saint hein, dans le monde chrétien, bien
alors,
entendu.
Tout prénom, enfin tout nom de baptême utilisé à cette époque-là était avalisé, je dirais, par un saint. Mais ce nom-là pouvait avoir été pris dans le répertoire des noms bibliques, dans le répertoire des saints, des premiers martyrs de l'Église, comme il avait pu être apporté dans leur valise, bien qu'il n'en ait pas eu, par les envahisseurs germains qui avaient apporté leur propre capitale de dénomination. Mais tout ça, c'était vieux, ça datait de 5 à 6 siècles, c'était complètement oublié.
Et puis c'était choisi, on le choisissait librement, vous le dites, si bien d'ailleurs qu'un père et un fils n'avaient pas le même nom, enfin prénom, ou plutôt nom de baptême, hein. Il n'y avait pas de filiation par le nom. Et alors les noms apparaissent
Ça serait à voir.
Ah bon?
Dans certaines familles, ici, dans les familles féodales, dans les grandes familles féodales, c'est comme ça qu'on arrive à retrouver, par exemple, les ancêtres des Capétiens avant UKP, avant Robert Lefort. Ils deviennent les Robertiens, pour ceux qui étudient, et c'est le prénom de Robert qui, se transmettant de génération en génération, a permis de savoir que les ancêtres des Capétiens étaient des comtes et ducs de Winsgow sur les bords du Rhin.
Alors justement, Jean-Louis Bocarnot, vous dites que quand les premiers noms de famille apparaissent, ce sont des noms que se donnent La noblesse, un peu d'ailleurs, comme les noms que se donnaient autrefois dans l'Antiquité, oui, les grandes familles romaines.
Je ne sais pas si on peut parler de noms de famille. Ce qui va constituer des noms qui souvent sont encore vivants aujourd'hui, ce sont des noms que l'on va donner à la noblesse, tout simplement parce qu'on va les désigner par rapport à leur fief, par rapport à leur seigneurie, par rapport à leur possession. Ça sera Thibaut de la Marche, Hugues de telle seigneurie, etc., ou de la Roche-Aymon, ou de la Roche-Foucault. Mais eux donnent un petit peu le là, mais c'est une époque où il n'y a toujours pas les noms de famille. Hein. Et ces familles-là, elles se détachent, elles voient leur nom apparaître vers les 9e, 10e siècle. Mmh. Mais là encore, la plupart des manants, des roturiers, des gens simples, n'ont toujours qu'un seul nom de baptême, qui a seul nom unique.
Alors ça va venir justement, ils vont avoir un nom de famille très bientôt. Pour quelle raison, petit à petit, je crois que c'est à partir du 12e, 13e siècle, c'est...
Oui, 11e, 12e,
hein, oui. Les régions. Va-t-on se donner, en plus de son nom de baptême, qui devient du coup un prénom, un nom?
Un sobre nom, c'est-à-dire un surnom, oui. Un nom en plus.
Alors pourquoi?
Ben, tout simplement parce que, en schématisant, après l'an 1000, une grande période de paix, donc une grande période de croissance économique, donc une grande période de croissance démographique, un grand boom démographique, comme on dirait aujourd'hui, et au sein de chaque communauté dans lesquelles vivent nos ancêtres, dans les seigneuries, dans les paroisses, dans les villages, eh bien on se trouve avec trop de Hugues, trop de Pierre, trop de Jean, trop de Guillaume, on ne s'y retrouve plus, et spontanément, il n'y a jamais eu de loi, il n'y a jamais eu de registre ouvert pour enregistrer tout ça, mais spontanément, on va prendre l'habitude de donner un nom en plus pour s'y retrouver entre les différents Pierres vivant dans le même lieu. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, ça n'est pas choisi par la personne qui va être concernée, c'est donné par les tiers, par ses voisins, par les prochains, simplement pour pouvoir le distinguer de ses homonymes.
Et en fonction de quels critères, Jean-Louis Beaucarnot, vous évoquez, par exemple, qu'on donnera un nom de métier à quelqu'un qui le pratique, hein, tisserand, forgeron, cordonnier, etc. Un nom aussi selon la place qu'il occupe dans la société, dans une famille, vous citez par exemple les vassals, les lemaîtres, les frères, les lecomtes, le physique aussi, alors là c'est
à l'origine. Il y a plusieurs répertoires, mais de toute façon, on ne sait jamais très bien à quoi ces surnoms ont rimé, en ce sens que parfois, l'analogie ou l'ironie pouvait s'en mêler, on pouvait très bien plus surnommer quelqu'un le beau alors qu'il ne l'était pas du tout. Mmh. Comment comprendre Monsieur le Lièvre? Avait-il de grandes oreilles? Était-il quelqu'un de très rapide ou au contraire? Était-il quelqu'un d'infiniment lent que par dérision on s'amusait à surnommer le lièvre? Mmh. Tous ces surnoms sont nés de façon anarchique, sont nés exactement comme ils naissent encore aujourd'hui dans les cours de récréation, comme ils sont nés il y a quelques années dans les chambrées de service militaire. Bien souvent, le souvenir ne s'en garde pas, et ces noms, ils naissent au petit bonheur, on peut jamais savoir si c'est à prendre au propre ou au figuré. Boucher pouvait être le surnom d'un boucher, mais ça pouvait être aussi le surnom d'un homme un petit peu cruel et sanguinaire. Thomas pouvait être un prénom repris du père ou du grand-père qui se prénommait Thomas. Ça pouvait être, par rapport à saint Thomas, le surnom de l'individu sceptique.
Mmh.
Bon, mais à côté de ça, des noms, par contre, sont beaucoup plus clairs. Vous avez beaucoup de noms qui viennent tout simplement du lieu habité. Ça, si vous voulez, si on balaie la France de l'Alsace à l'Aquitaine, on trouve dans les pays de l'Est énormément de noms venus tout simplement de prénoms et de diminutifs. C'est Janson, le petit Jean, Pierret, Perrin, Colin, qui sont le petit Pierre ou le petit Nicolas. Et on va trouver de plus en plus, en allant vers le sud-ouest, des noms venus dans le nom de lieu, en ce sens que, surtout dans les régions d'habitat dispersées, vous avez tous ces gens qu'on ne voit jamais au village, on n'a pas de prise sur leur vie, on ne peut pas leur fabriquer un surnom sur mesure. Donc c'est tout simplement Jean de Nusière, parce qu'il arrive du lieu dit Nusière.
Alors ça donne déjà beaucoup de noms, Jean-Louis Beaucarnot, et d'autant plus qu'il faut le rappeler, à cette époque, il n'y a pas une langue unique, si on ne prend rien que le cas de la France, et il n'est pas le seul, il y a autant de langues ou de dialectes que de régions, si bien qu'à partir du même nom, on va trouver des tas d'autres noms différents selon la langue régional, à partir du même mot. Tisserand, ça peut devenir Tixier en Auvergne, Tesser dans le Midi, Tissot dans le Jura, le forgeron, c'est Le Goff en Bretagne.
C'est Schmitt en Alsace, Schmitt c'est Smet en Belgique. Ouais. Il devient Lefèvre dans les régions du Nord, avec parfois même des Lefébures. Mmh. Il devient Fabre et Fabre dans le Midi. Il devient Fort dans le Sud-Ouest. Il devient Or en Gascogne comme Fernandez Hernandez. Le F et le AF jouent un petit peu toujours à cache-cache. La France est une mosaïque. La France d'abord n'existe pas. C'est une notion qui ne s'est pas encore imposée et dégagée. Une entité qui n'a pas de réalité. Elle est composée d'une mosaïque de seigneuries, de régions, de terroirs qui chacune a son dialecte, son patois. Et les noms de famille se dégage dans ce contexte-là.
Et ils sont d'autant plus nombreux, en fait, que l'orthographe de chacun d'entre eux va évoluer, si tant est qu'on la connaisse ou qu'on puisse écrire son nom, et qu'il faut attendre encore longtemps donc pour que ces noms, vous le dites, de famille soient fixés par écrit sur des documents rédigés d'abord, bien sûr, par les seuls ou presque qui savaient écrire, les ecclésiastiques.
Le registre paroissial. Bon, alors, nous allons procéder. D'abord, les noms.
Ma fille Lison, fille de Maître Guillaume Dumoulin, son père, c'est moi. Et de Périne de Bois-Croisé, c'est elle. L'autre côté, Fanfan.
Fanfan comment?
Je l'ignore.
Né où?
Pas de souvenir.
De qui?
Orlin Mystère. Bon, alors, vous mettez Fanfan, 5 pieds, 6 pouces, né à Paris.
Envoyez les classes!
Et c'était le mariage de Fanfan la Tulipe, enregistré sur le registre paroissial. Désormais, les noms sont fixés, pas seulement sur les registres paroissiaux, Jean-Louis Bocarnot.
Ah, ils sont fixés, non, ils sont pas fixés. Petit à petit, c'est vrai, ils sont fixés, mais déjà, uniquement, je dirais, phonétiquement. L'orthographe, elle va changer, elle va pouvoir évoluer jusqu'à la généralisation de l'alphabétisation. Jusqu'à ce que tout le monde soit... En mesure d'épeler son nom et de pouvoir rectifier ce qu'il estime être une erreur. Il n'y a pas d'erreur en la matière parce qu'il n'y a pas d'orthographe. Mais en sachant que jusqu'à cette époque-là, nos ancêtres ne s'intéressent absolument pas à l'orthographe de leur nom.
Et à partir et personne de quel moment ils sont vraiment fixés, comme vous employez ce mot d'ailleurs, de fixer, parce que ils évoluent, ils changent, ils se multiplient.
Et... Ils sont fixés par le livret de famille et l'alphabétisation générale début 20e siècle.
Et puis il y a aussi bien sûr le code civil, l'état civil, etc. Alors il y a aussi de grands changements, de grandes révolutions, pas seulement politiques, mais pour les noms, c'est ne serait-ce que la Révolution française. D'abord, elle touche les prénoms. Il n'est plus de bon ton d'avoir un nom de baptême avec un saint, alors on choisit des héros de l'Antiquité grecque.
Dans une certaine élite.
Oui, dans une certaine élite, mais enfin, on voit apparaître des Brutus, des Gracchus, etc. Et puis surtout, on perd, volontairement ou involontairement, sa particule.
Il n'y a pas de particule, ça n'existe pas.
Mais alors, c'est quoi alors? Quand vous dites, je vous prends un exemple, Joël Boucarneau, Robespierre s'appelait Maximilien de Robespierre.
Mais il s'est toujours appelé. Bon, à la Révolution, certains les ont volontairement oubliés. Mais je réagis en ce sens que bien souvent, des Français s'imaginent que s'ils s'appellent de la place, avant la Révolution, ça s'écrivait en deux mots. Bon, peut-être d'ailleurs, mais je veux dire que ça n'a aucune importance. La particule n'a rien à voir avec la noblesse. La particule ne crée pas la noblesse et n'est pas un signe de noblesse. Pendant tout l'Ancien Régime, était considéré comme tel. On n'a jamais fait l'amalgame. Vous aviez énormément, j'évoquais tout à l'heure, les Denusières ou les Duval qui venaient d'un lieu appelé Leval ou Nusière, qu'on appelait ainsi, on l'écrivait comme on voulait. On mettait une préposition, on n'en mettait pas, on l'attachait, on le détachait, on le mettait en roulette, peu importe. Il n'y avait pas de règle. Vous aviez parallèlement des familles bourgeoises qui, ayant acquis et développé un domaine, prenaient l'habitude d'ajouter un nom de terre. Et la plupart du temps, enfin beaucoup de ces familles-là, arrivaient ensuite à être anoblies, et donc vous aviez un petit peu l'habitude, on avait vu arriver beaucoup de familles nobles avec un nom en trois parties. D'où des tas de gamberges que l'on a fait après coup, en imaginant que si avant la Révolution, le de la place était détaché, etc., c'est qu'on avait eu peur. Mais non, personne n'a jamais été très sensible à ça. C'est exactement comme les Leroy avec un Y, qui s'imaginent que c'est mieux de s'appeler Leroy avec un Y.
J'ai appris quand même que l'accusateur public allait faire tomber la tête d'un grand nombre d'aristocrates, qu'on connaît sous le nom de Fouquier-Tinville, était un Fouquier de Tinville, en fait. Hein. Bon, enfin, on l'appelle plus comme ça. Alors, arrive l'Empire, il y a une nouvelle noblesse, de nouveaux noms qui apparaissent. Il y a aussi une chose très curieuse qu'on ne sait pas bien, c'est que Napoléon avait demandé à ce que le nom des Juifs soit fixé. Pourquoi? Il ne l'était pas, Jean-Louis Boucarnot?
Non, il ne l'était pas. On était un petit peu dans la communauté juive qui était très très limitée. Il y avait quoi? À peu près 40 000 Juifs en France à l'époque de la Révolution. Donc, on était resté dans cette communauté avec des habitudes tout à fait comparables à ce qui existait chez nous au Moyen-Âge avant la naissance des noms de famille. Donc, on était à une génération Moïse Lévi, à la génération suivante Moïse Cahen ou je ne sais pas, Abraham Moïse, peu importe, c'était très fluctuant. Et administrativement, c'était compliqué. Donc, Napoléon, en 1808, a réagi, et pour la bonne organisation de sa conscription, c'était pas que les Juifs voulaient se soustraire à la conscription. Au contraire, hein, ils étaient plutôt fiers de rejoindre le giron de l'armée et des Français, mais les Juifs qui séjournaient en France étaient difficilement suivables, donc l'empereur a tapé beaucoup de poings sur la table en disant, à partir de maintenant, alors là, on a ouvert des registres, là, c'était une loi qui est imposée, et chaque famille s'est dotée d'un nom définitif.
Alors, cela dit, on se préoccupe aussi à cette époque de la... codifie le changement des noms par une loi de 1803 qui permettait donc de changer de nom s'il est difficile à porter, mais certains jusqu'à aujourd'hui s'y attachent quand même, comme ce couple qui, à cause de son nom, s'était vu refuser d'adopter un enfant mais qui avait fini par obtenir satisfaction en appel. France Inter, Jacques Chabot, le 22 septembre 1972.
Philippe s'appellera Trognon. La cour d'appel a estimé que si ce nom pouvait inspirer à certains de sottes plaisanteries, cela ne devait pas l'empêcher d'entrer dans un foyer honorable où il doit trouver les conditions d'existence favorable à son épanouissement. Pierre de Brange était au palais de justice quand les époux Trognon ont appris la bonne nouvelle et n'ont pas caché leur satisfaction.
Nous avons reçu un très nombreux courriers, d'abord des homonymes, vraiment des lettres très encourageantes à notre sujet.
Ça a été en quelque sorte une levée de Trognon en masse.
Exactement. Oui.
Et vous-même, est-ce que cela vous a gêné de voir votre nom étalé dans les journaux ?
Oh, absolument pas, absolument pas. Ça prouve justement que je n'avais pas honte de mon nom et que je n'ai jamais eu de préjudice avec ce nom-là.
Et vous, Madame Trognon, vous n'avez pas hésité à épouser monsieur parce qu'il s'appelait Trognon ?
Pas du tout, j'ai épousé l'homme, j'ai pas épousé le nom.
Un homme sort de chez lui, c'est très tôt le matin, c'est un homme triste. Cela se voit à sa figure. Les choses sont comme elles sont. Cet homme si triste est triste parce qu'il s'appelle Ducon. Soudain, dans une boîte à ordures, il voit un vieux potin mondain. Et il s'arrête à la page des dés, et il regarde à la colonne des dés, et son regard d'homme triste devient plus gai, plus clair. Personne, vraiment personne, ne porte le même nom. Je suis le seul du con, dit-il entre ses dents. Et il jette le livre, ses poussettes, les mains, et poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin.
Et c'était Quelqu'un, une chanson de Jacques Prévert, interprétée par les frères Jacques. Il y a beaucoup de gens, dites-vous, Jean-Louis Beaucarneau, qui, malgré la difficulté de porter un nom, comme Ducon vient de l'entendre, eh bien, ils sont très attachés. Vous dites qu'on aime son nom.
Ben, son nom, c'est sa peau, c'est son identité, c'est toute la... Je dirais, c'est toute la filiation généalogique qui est derrière vous. C'est une chaîne qui vous relie à l'histoire, aux racines. Donc, chacun... se projette dans son nom, met beaucoup de choses dans son nom, investit énormément de ce côté-là, et toucher, voir que l'on peut toucher à votre nom, voir que l'on peut l'écorcher, tout ça, ça dérange toujours. Donc la plupart du temps, on est tellement attaché à son nom qu'on le voit. Les quelques personnes qui arrivent à accepter, à se faire l'idée de changer de nom, ils n'en changent jamais complètement. Monsieur Cocu va se rajouter une simple cédille et devenir Cossu. Sainte cédille qui est osée, qui font des miracles, parfois, à ce niveau-là.
Cocu, d'ailleurs, je crois que c'est le nom dont on demande le plus souvent le changement. Oui. Il y a environ 1300, plus de 1000 demandes de changement par an. Ça se passe au Conseil d'État, d'ailleurs, je crois.
Passe à la chancellerie. Hein, oui. Mais ces demandes sont tout de même un petit peu en voie, pas vraiment de régression, mais risque de l'être avec la nouvelle loi.
Parce que, justement, ce nom-là, vous le rappelez, n'est considéré comme difficile. Difficile à porter que depuis peu de temps. À l'origine, Cocu n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui.
Il peut avoir deux sens. Celui d'aujourd'hui, mais il peut très bien avoir aussi celui de cocu porteur d'une coque, c'est-à-dire bossu, tout simplement. Mais ça c'est très fréquent. Monsieur Malmonté habite tout simplement, près d'une mauvaise montée. Tous les noms, bien souvent, ont une explication qui n'est pas du tout celle que l'on imagine, même si, comme ça, il semble parler de choses qui sont un peu en dessous de la ceinture.
Il y a eu beaucoup de changements de noms aussi liés au contexte politique, notamment beaucoup de noms juifs qui ont disparu à partir du début de l'antisémitisme.
On a voulu changer, mais surtout, il y a eu un petit flot au moment de l'affaire Dreyfus, mais il y a eu surtout de grosses légions de juifs qui ont demandé à changer de nom au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour des problèmes que l'on comprend bien, pour protéger leur descendance de ce qu'ils avaient connu. Et là, on voit d'ailleurs bien toute l'importance, parce que dans une première génération le fait, pour les raisons que l'on comprend. Et aujourd'hui, on est souvent face à une deuxième ou troisième génération, souvent les petits-enfants de ceux qui ont demandé le changement, et qui, de Lévi ou de Cahen, se retrouvent aujourd'hui Didier, Raymond, avec un nom Laurent très passe-partout, qui fleurbon le nom français banal, mais qui se trouve de cette façon en décalage avec leur identité, leurs racines réelles, et souffre beaucoup de cet ersatz, de cette identité artificielle. Et là,
qui paraît pour souvent, un reniement aussi, vous le dites.
Absolument. Aussi, ouais. Et donc souvent, parfois, ils essaient de vouloir faire machine arrière, et là, la loi ne le permet pas, parce qu'elle est faite dans un but. Elle est autorisée pour permettre l'intégration à la communauté nationale et non pas la démarcation par rapport à la communauté nationale.
Moi, Jean-Louis Bocarno, depuis le début de cette émission, quand on parle des noms, on ne parle que des patronymes, c'est-à-dire que c'est le nom du père ou c'est le nom du mari. Maintenant, les choses sont en train d'évoluer, mais à quoi correspond le fait que une femme perd son nom, non pas par la loi, pas parce qu'elle demande, pas seulement parce qu'elle se marie, elle perd son nom de jeune fille, de même qu'un enfant est automatiquement l'enfant de son père, je puis dire, par son nom.
Ça vient d'une coutume, le code civil même ne l'a jamais enregistré noir sur blanc, mais ça vient d'une coutume très ancienne, et ça vient des mœurs et des mentalités d'autrefois, où l'homme, à tous les niveaux, l'emportait. La femme était considérée comme un enfant de son mari, comme une mineure. Elle devait, pour tous les actes qui pouvaient l'engager, être autorisée de son mari. Lorsque le généalogiste fréquente, voit des actes de baptême du XVIe siècle, il y en a quelques-uns, toutes les communes n'en possèdent pas, mais on arrive à en trouver quelques-uns, il voit, même encore au XVIIe, d'ailleurs, au début du XVIIe, il lit que l'enfant, le curé écrit, que l'enfant est né fils d'un tel et né du corps de telle femme. Oui. Donc la femme, elle est là, elle prête son corps pour recevoir la semence du mari, mais elle n'y est pas pour grand-chose.
Alors justement, les choses ont changé à plusieurs reprises, et notamment il y a 2 ans, avec une loi France Inter, Émilie Flahaut, le 22 février 2002.
Désormais, les parents, qu'ils soient mariés ou non, pourront choisir pour leur enfant le nom de la mère, celui du père ou le double nom dans l'ordre qu'ils souhaitent. La loi ne sera applicable que dans 18 mois pour laisser le temps à l'état civil de s'organiser. Anne-Claire, qui est enceinte de 5 mois, devra donc attendre un peu car elle compte bien donner à son enfant son nom et celui de son mari. Elle l'a expliqué à Bénédicte Courret.
Je trouve que c'est important de garder la traçabilité, de savoir d'où on vient. C'est une question d'identité, de mémoire. C'est vrai que moi, je suis assez sensible à qui sont mes parents, mes grands-parents, à d'où je viens. Et j'aimerais bien transmettre un petit peu ça à mes enfants.
Et l'enfant de cette jeune femme porte désormais donc le nom de son père et celui de sa mère, en vertu de cette loi de 2002, dont il y a eu plusieurs raisons invoquées pour la justifier. Bien entendu, établir l'équilibre entre les hommes et les femmes. Il y a aussi quelque chose que vous réfutez totalement. On dit souvent, il faut rajouter le nom de la femme parce que les noms risquent de disparaître en France. Il y en aura de moins en moins, on s'appellera tous Martin.
Oui, ça c'est complètement faux. Ça vient d'une enquête qui avait été commencée d'être menée et qui n'était pas terminée en 1975, qui avait fait un petit peu parler d'elle. Mais depuis, des personnes beaucoup plus compétentes et autorisées ont rebuché la question et ont démontré que non, n'en déplaise à ceux qui aiment bien les manchettes à sensation, le capital corpus patronymique français ne risque pas grand-chose. Et oui, des noms s'éteignent, mais en général, ce sont les variantes orthographiques ou phonétiques très rares, d'autres noms beaucoup plus courants.
Il y a plus de noms qui naissent que de noms qui disparaissent dans les sondages.
Pas vraiment, mais par contre, si cette loi connaît du succès, on risque de voir beaucoup de naissances de noms, puisqu'on va avoir toute une floraison de noms doubles, de noms accolés. qui n'existait pas. Ouais. Et bon, ça c'est sans compter.
Et quand les gens se marieront, ça fera des dons quadruples, si je puis dire aussi.
Ah non, 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 ça s'arrête là.
Pour les enfants,
ça s'arrête après, là. Il faut choisir. Alors, mais c'est quand même choisir entre le père et la mère, ça sera pas facile.
Ouais. Jean-Luc Bocarnot, à quoi ça correspond? Je m'en suis rendu compte en vous lisant, en vous écoutant aussi sur une chaîne concurrente, mais néanmoins amie. À quoi correspond cet engouement des gens pour la recherche des origines de leur nom?
Ah, je pense que les
sociologues... Et vous dites que c'est beaucoup plus qu'avant.
Ah, oui, je pense que les psychosociologues vont s'en donner à cœur joie dans quelques années. On commence à étudier. Ça correspond surtout, en gros, la principale motivation, c'est une recherche de racines, et elle émane des urbains, des suburbains, des rurbains, de toutes les personnes qui, dans un premier temps, ont essayé de retrouver un petit peu une identité par l'habitat pavillonnaire, etc., puis qui se rendent compte que, non, c'est pas vraiment ça, et que, en revanche, s'ils habitent Villiers-sur-Marne ou Blagnac, eh bien, ils ont des racines ailleurs, dans un terroir, et un jour se disent que, ces racines doivent être retrouvables. Mais ça fait tache d'huile, parce que la généalogie, c'est un nouveau loisir culturel qui monte, mais c'est aussi, ça tient de la collection, ça tient de puzzle, ça tient de l'enquête policière. Donc, en général, ça fait tache d'huile, c'est très contagieux.
Peut-être aussi, je sais pas, on vit dans un monde sans repères et que ça
en fait partie, bien sûr.
Merci en tout cas beaucoup, Jean-Luc Bocarnot, d'être venu nous parler donc de l'origine des noms, que l'on retrouve aussi dans votre livre passionnant, Laissez parler les noms. Il s'agit des noms de lieux aussi, des noms, des prénoms, on en a pas parlé, des noms de marques, mais aussi des noms de famille dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, Laissez parler les noms, un livre sur l'origine des noms qui vient d'être publié aux éditions Lattès. Vous avez pu entendre un extrait du film Fanfan la Tulipe de Gérard Krasvic avec Vincent Pérez et Pénélope Cruz, disponible en DVD chez Fox Pathé Europa. Et toutes les autres archives étaient tirées de l'INA. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à mes équipiers dont les noms évoquent toutes les régions de France. Et d'ailleurs, Pascal Baldassari, Clotilde Thomas, Claire Destacan, Claire Tesser, c'est Tisserand, c'est ça,
Tisserand. Hein, voilà.
Violaine Ballet, Caroline Chausset, Amélie Briand, hein, vous pourrez faire tout un livre sur ces noms. Et même la Tchécoslovaquie avec notre réalisatrice Anne Kobila, qui paraît que ça veut dire crotte de cheval, je crois. Voilà. Je rappelle que notre émission est rediffusée la nuit entre 3h et 3h30. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous recevrons Jack Lang pour son livre sur Nelson Mandela. Mais tout de suite, à 14h30, moins 4 secondes, 3, 2, 1, 0, sur France Inter, notre ami Eric Oswald. Voilà encore.